la première fois qu'on fait grève et puis ce sera la dernière parce que celle-là on va la gagner.
Ouais, pour arrêter de se faire exploiter là, faut être...
ont fait, ont donné de leur sueur, donné de leur santé, ou même souvent de leur vie, pour faire des bénéfices à une entreprise. Et que quand vous avez des actionnaires qui prennent cet argent, qui se le mettent dans les fonds, vous comprenez? On est dans un système pourri.
Ce que le gouvernement est en train de faire, c'est une catastrophe sans nom. On est en train d'écraser la liberté d'expression, on est en train d'écraser les droits, les libertés des salariés, et tout ça, ça cache en réalité la casse du code du travail qui arrive avec Macron, et tout ça sous couvert de l'ultralibéralisme et du travail pour tous. Je pense qu'à un moment donné, il va forcément se passer quelque chose parce que les gens vont pas pouvoir continuer à s'écraser.
Qu'est-ce que tu fais ?
La révolution !
Démobilisation générale, 8e exercice préliminaire. Aujourd'hui, à l'heure dite, on s'arrête, on se parle. Comment tu l'as su, toi ?
J'ai entendu au poste.
Bah oui, moi j'ai toujours entendu annoncer les exercices préliminaires à la radio.
Alors, les types de la radio sont avec nous ?
C'est pas qu'ils sont avec nous, c'est qu'on est partout.
Quelle info ?
Moi, je trouve qu'il y en a un petit peu marre des préliminaires.
Bah allons-y, arrêtons tout pour de bon.
Dans mon lit, les 11h, mal au cœur, déjeuner, mon café, la radio, trop c'est trop, les midis, mes parents sont rentrés.
Bonsoir.
Excellent.
Vous écoutez le Canu Info du lundi 24 janvier et on commence tout de suite avec les titres.
Alors à l'international, on partira d'abord en Serbie pour vous parler d'une bonne nouvelle, d'une victoire de la mobilisation contre un projet de mine. Et on aura ensuite un sujet sur l'Afghanistan pour faire un point depuis la reconquête du pays par les talibans.
Au national, on vous parlera des universités puisque Macron a annoncé une future hausse des frais d'inscription et on continuera avec un sujet sur la reprise de la grève du nettoyage à la Sorbonne.
Et au local, on parlera d'une action contre l'ouverture du nouveau centre de rétention administrative et du nouveau délire de la presse d'extrême droite locale, le MAG qui s'en prend à la gale. Mais tout de suite, on commence par les brèves.
En commençant par Zemmour, puisque alors que celui-ci continue de débaucher le Rassemblement National, on note qu'il est loin d'avoir séduit tout le monde, un peu partout on le combat. Vendredi dernier, il se déplaçait à Menton pour faire un coup de com' sur les frontières. Il a été accueilli par des militants qui viennent en aide aux migrants. Et il y a été temporairement bloqué sur la route d'un poste frontière franco-italien. Pour l'essentiel, les déclarations de Zemmour ne font que confirmer la stupidité de son analyse sur les questions migratoires. Il a déclaré que s'il était président, il n'y aurait plus de subventions pour les associations d'aide aux migrants, oubliant qu'il n'existe déjà pas de subventions pour celles et ceux qui viennent en aide aux migrants qui risquent leur vie à la frontière franco-italienne en hiver. Pour aller un peu plus dans la provocation, il a aussi, disons-le, déclaré que les gens comme Cédric Héroux devraient être en prison. Dans le même temps, à Nîmes avait lieu un rassemblement de plus d'une centaine de sympathisants d'Éric Zemmour. Ce rassemblement nauséabond n'a pas laissé de marbre des Nîmois qui les ont chassés. Et après une bagarre de Zemmour, les Zemmouriens ont dû se réfugier dans une brasserie en attendant que la police vienne les défendre.
Une fois n'est pas coutume, Claude Guéant, qui est déjà incarcéré depuis un mois pour une affaire de prime en liquide qu'il a perçue entre 2002 et 2004 au ministère de l'Intérieur, écope maintenant de 12 mois de prison, dont 4 avec sursis, c'est-à-dire 8 mois ferme, pour favoritisme et non-respect des règles de la commande publique. Le problème, c'est la centaine d'études et de conseils en opinion qu'il est payé avec l'argent public, commandé sans aucune mise en concurrence sous le mandat de Nicolas Sarkozy, commandé donc directement aux copains, à savoir Patrick Buisson et Pierre Giacometti. Plus précisément, 235 enquêtes d'opinion entre 2007 et 2009, dont certaines n'avaient pas grand-chose à voir avec la conduite de l'État, comme celle qui visait à connaître l'avis des Français sur le couple Nicolas Sarkozy-Carla Bruni. L'historien et ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, Patrick Buisson, s'est vu infliger lui 2 ans de prison avec sursis et 150 000 euros d'amende pour détournement de fonds publics. Notons d'ailleurs que Patrick Buisson est l'actuel conseiller d'Éric Zemmour, un métier où on rebondit facilement, conseiller. La directrice de cabinet de Nicolas Sarkozy, Emmanuelle Mignon, écope de 6 mois de prison avec sursis. L'ex-sondeur Pierre Giacometti est sanctionné par 6 mois de prison avec sursis et 70 000 euros d'amende. Et Nicolas Sarkozy n'est pas poursuivi dans ce dossier grâce à son immunité présidentielle.
Et puis l'Algérie maintenant, qui en conflit diplomatique avec notre cher ministre de l'Intérieur, refuse depuis un moment de participer au rapatriement de ses ressortissants sans papier sur le territoire français. Darmanin le lui reproche déjà depuis longtemps, et c'est vrai que l'Algérie ne rend pas facile ses expulsions. Un porte-parole de la CIMAD déclare que depuis le 17 novembre 2021, aucune expulsion vers l'Algérie n'a pu être effectuée depuis les centres de rétention gérés par cette association. Le conflit repose sur le fait que la France doit demander un laissez-passer à l'Algérie lorsqu'une personne sans papier refuse, un, son expulsion, ou ne possède plus de passeport. Les deux cas arrivant souvent, c'est ce que devrait faire la France pour presque toutes les expulsions d'Algériens. Il semble que l'Algérie les délivre rarement. Après les critiques de Darmanin, les autorités algériennes ont officiellement demandé à ce que plus aucun laissez-passer ne soit délivré. Le résultat, c'est qu'en 2021, 513 Algériens ont été enfermés en centre de rétention administrative, alors même que leur expulsion n'était pas possible. Encore maintenant, on continue d'arrêter et enfermer des Algériens, tout en sachant pertinemment qu'il ne sera pas possible de les expulser. Et pourtant, cet enfermement, officiellement, n'est censé avoir lieu que pour permettre cette expulsion. Bref, il s'agit bien d'une preuve que les CRA sont avant tout des prisons pour étrangers et qu'ils sont utilisés à des fins punitives.
Et maintenant, une première petite pause musicale avec un classique du rap US des années 90, A Tribe Called Quest, avec son morceau We The People.
Believe you, cause we the people are still here in the rear, yo, we don't need you. You ain't a killing off good young nigga move. When we get hungry, we eat the same fucking food, the ramen noodle. This simple voodoo is so maniacal, reliable to pull a juju. The irony is that this bad bitch in my lab, she don't tell me she make money, she don't study that. She gon' give it to me, ain't gon' tell me nothing back. She gon' take the brain away the place she sit on that. The doors and signs with it, don't try to rhyme with it. VH1 has a show that you can waste your time with. Guilty pleasures take the edge off reality. And for a salary, I'll probably do that just sporadically. The OG Gucci boots are smitten with iguanas. The IRS piranha see a nigga getting common. Niggas in the hood living in a fishbowl. Gentrify here, now it's not a shithole. Trendsetter, I know, my shit's cold. Hand sentiment because I ain't so bold. But there, all you black folks, you must go. Mexicans, you must go. And all of you poor folks, you must go. Muslims and gays, boy, we hate your ways. So all of you bad folks, you must go.
The fog and the smog of the media, the logs, false narratives of guys that came up against the odds. We're not just nigga rappers with the bars. It's kismet that we conflict with the stars. You bastards overlooking street art, better yet street smart, but you keep us off the chart. Some of the fucking numbers and your statisticians. Fuck y'all know about true competition. Just like the AO picture on there talking about he hitting. The only one who's hitting are the ones that's currently spitting. We got your Missy smitten, rubbing on a little kitten, dreaming of a world that's equal for women with no division. Boy, I tell you, that's vision. Like Tony Romo when he hitting with it. To try and be the best in a division. Shaheed Muhammad cut it with precision. Who can come back years later, still hit the shot? Still, I'm trying to move you off the fucking block. Babylon blood clot. Cube on your head, top.
All of you black folks, you must go. All of you Mexicans, you must go.
Vous êtes toujours sur le Canu Info du lundi. Vous venez d'écouter A Tribe Called Quest avec le titre We the People et on passe tout de suite à... Petit jingle, mais international quand même. Et on commence tout de suite avec un sujet sur la Serbie et un projet de mine de lithium.
Oui, jeudi 20 janvier dernier, lors d'une conférence de presse, la première ministre serbe a annoncé l'annulation de tous les permis et actes administratifs liés au projet de mine de lithium de l'entreprise anglo-australienne Rio Tinto sur le territoire serbe. Cette décision a été prise sous la pression d'une très forte mobilisation, rassemblant des dizaines de milliers de Serbes depuis plusieurs semaines. La mine de lithium de Rio Tinto était prévue pour 2026, le long de la rivière Jadar, dans le sud-ouest de la Serbie. Rio Tinto devait ainsi devenir le plus gros fournisseur d'Europe de ce minerai crucial pour les batteries automobiles. Le géant minier, qui s'est déjà salement illustré en 2020 par le dynamitage de grottes préhistoriques aborigènes en Australie, comptait extraire 58 000 tonnes de carbonate de lithium par an depuis la jadarite, un minerai découvert dans cette vallée en 2004, soit assez pour fournir plus d'un million de voitures électriques en Europe, où le lithium provient pour l'instant d'Amérique latine et d'Australie. C'était sans compter la mobilisation inédite, alimentée par la montée des préoccupations environnementales dans un pays déjà très pollué. Tout ça à quelques semaines des élections générales prévues pour le 3 avril. En novembre et en décembre 2021, il y a donc des dizaines de milliers de Serbes qui sont descendus dans la rue pour protester contre ce projet, qui aurait provoqué un désastre écologique en termes de pollution des sols, des nappes phréatiques et des rivières de la région. En effet, le processus d'extraction nécessite des milliers de tonnes d'acide sulfurique. Les manifestants dénonçaient aussi la perte de milliers d'emplois dans l'agriculture, contre 1000 emplois créés par Rio Tinto, et le mouvement qui s'est donc appelé « Ne donnons pas Jadar », du nom de la rivière à côté de laquelle devait être la mine, a débuté par des habitants de la région concernée, puis s'est étendu à tout le pays par l'organisation de manifestations hebdomadaires avec blocage des axes routiers dans des dizaines de grandes villes, dont la capitale, Belgrade. Dans les discours et revendications des manifestants, on retrouve aussi la dénonciation d'une écologie à deux vitesses où les batteries de voitures électriques à destination d'une prétendue transition écologique des pays riches de l'Union européenne sont produites au détriment écologique des pays les plus pauvres de l'Est de l'Europe. Rio Tinto avait déjà investi 450 millions d'euros et racheté près de 90% des terres nécessaires pour la mine avant même d'avoir officiellement obtenu la licence d'exploitation et d'avoir achevé l'étude d'impact environnemental que les autorités serbes attendent toujours. Face à l'ampleur de la révolte de ces dernières semaines, l'entreprise avait anticipé une suspension des autorisations gouvernementales, mais pas une annulation pure et simple. Dans un communiqué publié jeudi soir, la direction du groupe a expliqué être préoccupée par les déclarations de la Première ministre et examiner la base juridique de cette décision et les implications qu'elle peut avoir pour ses activités. Si la Première ministre pense mettre fin aux manifestations à la veille des élections en annonçant la fin du projet de mine, les militants se disent certes satisfaits de l'annulation du projet, mais demandent maintenant une interdiction générale d'extraction du lithium dans toute la Serbie. C'est donc une première belle victoire, mais un mouvement qui semble ne pas être fini.
Et on continue avec de moins bonnes nouvelles en venant d'Afghanistan.
Oui, 20 ans après les attaques du 11 septembre 2001 et l'invasion militaire menée par les États-Unis pour déloger les talibans du pouvoir, eh bien ceux-ci, on l'avait dit ici, ont repris le contrôle de l'Afghanistan depuis août dernier. Alors, l'évacuation chaotique de la part des États-Unis de leurs ressortissants, elle s'était faite au détriment surtout d'une grande partie des civils talibans qui avaient travaillé pour l'armée US pendant les 18 années d'occupation et qui étaient du coup restés sur place sans avoir été exfiltrés. La débâcle des États-Unis a laissé derrière elle un gouvernement faible, dépourvu de légitimité, divisé, qui n'a même pas tenu 10 jours face à la reconquête du pays par les talibans. Depuis le retrait de l'URSS et la création de l'État islamique d'Afghanistan en 1992, eh bien les talibans représentent le groupe de combattants islamiques le plus hégémonique, notamment face aux seigneurs de la guerre de l'Alliance du Nord, dirigés eux par le général Massoud. Parmi les 33 ministres du nouvel exécutif de Kaboul, donc depuis août, on trouve quasi exclusivement des religieux, notamment venus du Pakistan et des réseaux Haqqani. Contrairement donc aux premières déclarations des talibans qui visaient à rassurer la communauté internationale, la coloration idéologique de ce nouveau gouvernement est loin, loin, loin d'être modérée. Le ministre de l'Intérieur n'est autre, par exemple, que Sirajuddin Haqqani, chef de ce qu'on a appelé les réseaux de la terreur et organisateur suspecté de plusieurs des pires attentats suicides dans le pays. inclusif, ce gouvernement de transition ne l'est pas non plus. Aucune femme n'est présente, les ministères clés sont aux mains de la ligne dure des talibans et tous les ministres sont des pachtounes, alors que les minorités tadjiks, ouzbeks, turkmènes et hazara représentent ensemble environ 60% de la population afghane. La tête du gouvernement revient quant à elle à Mohammad Hassan Akhund, l'un des commandants les plus influents des talibans. En réalité, ce nouveau gouvernement est quasi une réplique de celui de 1996. On prend les mêmes et on recommence. Sauf que désormais, deux branches du gouvernement s'affrontent ouvertement. D'un côté, ceux qu'on peut appeler les diplomates, proches de la direction historique du mouvement des talibans, originaires du sud du pays, qui ont surtout négocié le retrait des troupes américaines à Doha. De l'autre, ceux qu'on peut appeler les militaires, en particulier les réseaux Haqqani, originaires de l'est de l'Afghanistan, proches d'Al-Qaïda et de l'ISI, l'ISI, c'est-à-dire les services de renseignement de l'armée pakistanaise. Après 6 mois au pouvoir, donc, les talibans n'ont pas suivi l'image de modérés qu'ils voulaient initialement se donner. Exécution sommaire, persécution des minorités, expropriation des terres redistribuées à leurs propres partisans, répression des manifestants et des manifestantes et des journalistes, censure totale de la presse, islamisation forcée de l'enseignement et de nos universités, et j'en passe. Face à la répression, seules les manifestations des femmes perdurent tant bien que mal. Pourtant, en janvier, les talibans proclament l'interdiction de toute visibilité du visage féminin dans l'ère urbaine. Pour donner une représentation de ce que signifie dans leur bouche le mot « interdiction », on peut évoquer ce fait divers. À Herat, la troisième ville d'Afghanistan, les talibans ont ordonné aux commerçants de décapiter les mannequins en celluloïde exposés dans les vitrines de leurs magasins, qui étaient donc représentant donc le genre plutôt féminin. Voilà à quel genre de mise en garde s'amuse le ministère appelé de la promotion de la vertu et de la prévention du vice. Dans ce pays où passé l'âge de 10 ans, les filles ne peuvent plus aller à l'école, sont interdites d'études supérieures et ne sont pas autorisées à sortir sans être accompagnées, sortir manifester encore aujourd'hui est donc extrêmement courageux. Autre signe qui témoigne du durcissement de ce régime, l'importance donnée au sein de sa propre armée à l'escadron Est-e-Shahadi, qui s'appelle « En quête du martyr ». C'est donc une unité qui est composée uniquement de combattants suicides que l'on a pu voir parader tranquillement à la télévision afghane, équipés de vestes explosives et conduisant des voitures préparées pour des attentats suicides. 3000 d'entre eux, selon les chiffres officiels, seraient déployés aujourd'hui sur la frontière du Tadjikistan. Ça fait plutôt flipper. Aujourd'hui, à l'intérieur du pays, le principal problème, pourtant, c'est la famine, qui rôde notamment à Hazarajad, l'une des provinces afghanes les plus pauvres. Attisée à la fois par une sécheresse historique et l'effondrement total du système économique produit surtout par le retour au pouvoir des talibans, la famine menace l'ensemble du pays. La moitié de la population est en insécurité alimentaire, tandis qu'un enfant sur deux souffre de malnutrition aiguë. Depuis quelques semaines, se joue donc un drame humanitaire que les talibans n'arriveront pas à résorber et dont tout le reste du monde s'en fout. À ce jour, ni la levée de fonds des organisations humanitaires, ni l'appel au secours lancé par l'ONU n'ont eu d'effet concret sur le terrain et dans le pays. En attendant l'évolution de la situation, donc, on souhaite courage et force au peuple afghan qui doit subir et le régime ultra-conservateur des talibans et une grosse crise économique dont le capitalisme est pour partie responsable.
Et après ces informations très peu réjouissantes, on refait une petite pause musicale. On écoute Plus de pêcheurs de Missa.
a écrit nos larmes, rappé nos sourires au clair des âmes. À la pointe de nos plumes, nos galères à travers les âges. Nos lieux de vie sont tristement connus, bien loin de tous ces vices de gens promus, où la misère t'en colle une sèche. Hypertension, stress, oxydant, on s'en ulcère. Parfois on s'en ulcère, mais toujours utile. À qui, à quoi, à la terre, à la chaîne, on nous jette l'anathème. Tant qu'on nous jugera à la tête, on nous mettra la haine. L'époque est difficile, pleine d'illicites. La rancœur de l'homme croyant, nos jours est à peine divisible. Non, je ne vois pas que la Palestine dans mon combat vital. On veut mourir dehors, non pas dans un loft habitable. J'ai vu leur capital gravé sur leur t-shirt. Je m'occupe de ma foi avant de paver sur leur tricheur. Et c'est tellement dur, j'encaisse mais pas comme le banquier. Aime l'entube, né dans une sphère d'ordure. J'ai pas la finesse agrandie, plus ma ville elle s'agrandit, plus le vice se perpétue sur ses fidèles apprentis. Et notre chance d'avoir une vie paisible à Babylone. Je suis solidaire, j'assume encore si c'est ce qu'a choisi l'homme. On s'est tous connus pire, Dieu merci on évolue. M'en voulez pas l'héros, dans le futur j'effacerai vos numes. Garant de ma foi si bien que matériellement plus rien ne va. Mais bon si t'es en galère frère tu viens. Y'a plus de pêcheurs à la ville qu'à la mer. Plus de gros poissons, de requins vils sur la terre. C'est la guerre sur vos écrans. Et pire dans l'invisible, ces sorciers idolâtres vous enverront plus qu'un missile. J'ai cherché ni l'argent, ni le pouvoir, ni leur vieille compagne. Ils veulent pas ma chute, ils voudraient voir une pierre tombale. Quand le pêcheur te mène en bateau, soit tu mords à l'hameçon, soit la mort dans l'âme, songe à l'hameçon. J'ai l'écriture un peu salée, pas une plume un peu fade. Cherchez-vous une mère respectable, pas une putain de femme. Ils sont plein de bouquins de femmes, plein de références païennes. Les faux rappeurs roulent en Cayenne, se noient dans d'immenses paillettes. Ils comprennent rien à mes écrits et je peux pas mettre à leur niveau. Sur le mur du son, ils sont loin de casser des briques. Je reste loin de la célébrité pour pas sortir de la scène effritée. Le costard est triqué chez les friqués. On passe la nouvelle année comme une porte de prison. Tu vois le genre de vision d'entreprison. Mais jamais sur la zig, sinon on risque de mourir de faim. Ramassé par des hyènes, aspirant des sourires de chiens. Tu prendras pas tes clips, tes disques dans ta maison de bois. Je parle pas de ton chalet dans les Alpes, mais de tes angoisses. Sera pas fini par être dirigé par des pédophiles. C'est le retour aux pyramides du temps d'Aménophis. Je vous entends râler d'office, vos ics peuvent caner nos fils. Dites à ces novices que les pharaons avaient vos fils. Rien ni personne sauf mon créateur m'inspire la crainte comme il m'aide à surmonter la peur. J'apprends à regarder mes cicatrices, je fais mes sons au gré du temps. Tu veux des cicatrices, reste au soleil auprès du temple. Les convictions se vendent comme des albums de rap. Et les problèmes s'achètent, qui donc les abordera. Y'a plus de pêcheurs à la ville qu'à la mer. Plus de gros poissons, de requins vils sur la terre. C'est la guerre sur vos écrans. Et pire dans l'invisible, ces sorciers idolâtres vous enverront plus qu'un missile. J'ai cherché ni l'argent, ni le pouvoir, ni leur vieille compagne. Ils veulent pas ma chute, ils voudraient voir une pierre tombale. Quand le pêcheur te mène en bateau, soit tu mords à l'hameçon, soit la mort dans l'âme, songe à l'hameçon. Au milieu des chayatines et des maladies insufflées, domine-toi par le calme quand Chétan te dit insulte-les. La vie a supplé la mort dans leur cœur. Dieu mettra de l'ordre à l'heure et ordonnera leur peur. Y'a pas de facilité que des contraintes, jamais de passivité. Les bookmakers avides nous donnent perdants à 100 contre 1. J'suis pas un humaniste démocrate, j'analyse le terrain et note sur ma liste des mots graves. Donne le pouvoir à l'homme ou à Satan, c'est la même. Le binôme a tout fait pour faire avancer la haine. Pas de foi et d'intention saine. Et ne matez pas comme si on s'aime. Moi j'ai rien d'un new age, algérien d'un new ed. La vie est courte comme leurs idées sombres et macabres. Les bruits, les sons, les vacarmes des villes empêchent de penser. Les faibles trouvent un idéal en leur passion. La métropole, le rêve pour un libéral en leur nation. La zic remplit pas le frigo et les placards. Les auditeurs, ils sont timorés les trois quarts. Des inconscients ont cru qu'ils m'auraient les bâtards. C'est faire une erreur grave d'ignorer les barbares. Ils prennent mes écrits pour du papier toilette. Font des rallyes chez nous, sont raquettés par les Touaregs. Y'a des Touaregs, des sourates face aux incantations sales. Les grands garçons ne craignent aucun de leurs francs-maçons sages. Y'a plus de pêcheurs à la ville qu'à la mer. Plus de gros poissons, de requins vils sur la terre. C'est la guerre sur vos écrans. Et pire dans l'invisible, ces sorciers idolâtres vous enverront plus qu'un missile. J'ai cherché ni l'argent, ni le pouvoir, ni leur vieille compagne. Ils veulent pas ma chute, ils voudraient voir une pierre tombale. Quand le pêcheur te mène en bateau, soit tu mords à l'hameçon, soit la mort dans l'âme, songe à l'hameçon. Car plus de pêcheurs à la ville qu'à la mer. Plus de gros poissons, de requins vils sur la terre.
Vous êtes toujours sur le Canu Info du lundi 24 janvier 2022. On vient d'écouter Missa, plus de pêcheurs. Et en fait, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas écouté ce morceau qui est pas top dans certains passages. Nous nous excusons auprès des auditrices et auditeurs de Radio Canu. Mais on va quand même passer à la rubrique...
National.
Et au national, on commence par Macron et l'université.
Oui, car Macron, figurez-vous, chose incroyable, voudrait augmenter les frais d'inscription. Il aurait dit ça devant la CPU le 13 janvier dernier. Alors la CPU, c'est la conférence des présidents d'université. C'est un conglomérat de hauts fonctionnaires zélés qui applique absolument toutes les réformes néolibérales des gouvernements successifs depuis plusieurs décennies, et notamment plus de 15 ans. Sauf que Macron, lui, affirme qu'il n'a pas dit ça depuis notamment aujourd'hui dans la Creuse. Alors, voyons très précisément ce qu'il a dit, et puis on va le juger nous-mêmes. Donc, lui a jugé intenable un système d'études supérieures sans aucun prix pour les étudiants, mais avec un taux d'échec massif. A priori, donc, ça voudrait quand même dire qu'il faudrait augmenter les frais d'inscription. D'ailleurs, bon nombre de médias qui relaient sans beaucoup réfléchir ni regarder la réalité des faits, les propos de Dominique Vidal, disent que l'université est gratuite. Or, on va rétablir la vérité, non, la fac n'est pas gratuite. Pour les licences, aujourd'hui, en licence générale, les frais d'inscription sont à 170 euros, les frais d'inscription pour les masters à 243 euros, et pour les doctorat à 380 euros pour les étudiants et étudiantes français ou membres de l'Union européenne. Parce que pour celles et ceux qui ne sont pas membres de l'Union européenne ou ressortissants de l'Union européenne ou français, la licence est à 2770 euros, le master à 3770 euros. Par contre, le doctorat, lui, est resté à 380 euros, puisque de toute façon, vu que quasiment plus personne hors UE ne peut s'inscrire en licence ou master, il n'y a pas grand monde pour s'inscrire en doctorat parmi ces personnes-là. On remercie d'ailleurs Macron et Dominique Villal, l'actuel ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, pour cette mesure bien raciste de hausse des frais d'inscription pour les non-ressortissants de l'UE. Alors, premièrement, l'université n'est pas gratuite. Deuxièmement, le problème de l'échec massif dont parle Macron à la conférence des présidents d'université, ce n'est pas un système d'études sans aucun prix, puisque là, on est encore dans la rhétorique libérale habituelle. Il faut responsabiliser les étudiants, donc les faire payer. Ils ont fait la même chose pour la sécurité sociale. Or, on le sait depuis bien longtemps, le principal problème, c'est la précarité étudiante. Ça l'était déjà avant la crise sanitaire. Économique, où deux étudiants ou étudiantes sur trois étaient obligés de salarier soit toute l'année, soit en partie, une partie de l'année, pour pouvoir s'acheter à bouffer et se loger. Sauf que ce salariat étudiant précaire a explosé en plein vol avec la crise. On ne parle désormais plus de précarité étudiante, mais de pauvreté étudiante. Alors, c'est pas en crevant la dalle, en étant pauvre, en étant précaire, en salariant qu'on réussit ses études. C'est avec un véritable système d'aide sociale qui garantit aux étudiants et étudiantes des conditions de vie et d'études décentes qu'on réussit ses études. Et puis, encore faut-il pouvoir les choisir, ces études. Puisque ça fait maintenant 15 ans qu'une série de réformes issues des cerveaux des technocrates de l'Union européenne via le processus de Bologne et de l'ERP. L'ERP, c'est European Roundtable, qui veut dire table ronde des industriels européens. C'est un lobbying patronal européen ultra puissant sur lequel se base l'Union européenne pour imposer des privatisations, libéralisation des services publics. Eh bien, ça fait 15 ans que la France applique des réformes dont l'objectif est d'imposer la sélection à l'entrée de l'université, la hausse des frais d'inscription, la mise en compétition des universités, des filières, passant par la privatisation partielle des universités et des centres de recherche. Et vous savez qui a commencé tout ça ? Une certaine Valérie Pécresse en 2007, quand elle était ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche sous Nicolas Sarkozy. Elle a mis en place ce qu'on appelait à l'époque la loi LRU, la loi relative aux libertés et responsabilités des universités, qui a imposé l'autonomie financière des universités, qui désormais devaient rechercher des capitaux privés, avec en parallèle une baisse continue des financements publics. Et les autres points de la loi LRU, c'était la sélection et la hausse des frais d'inscription pour, entre autres, certains masters et à l'entrée de l'université. D'ailleurs, palme du foutage de gueule pour Pécresse, qui a quand même eu le toupet de dénoncer la, je cite, provocation de Macron sur les frais d'inscription, sachant que c'est elle, donc, la principale artisane de la plus violente réforme néolibérale que l'enseignement supérieur et la recherche française se sont pris dans la tronche en 2007. Ce qui a d'ailleurs provoqué deux des plus gros mouvements étudiants depuis 1986, en 2007 et 2009. Alors, on a autonomie, libéralisation et sélection renforcée qui sont continuées sous François Hollande avec les réformes de Geneviève Fioraso, ex-présidente de Minatech, entreprise spécialisée dans les nanotechnologies à Grenoble, puis sous Macron avec Dominique Vidal qui a entériné définitivement la sélection à l'entrée de l'université avec Parcoursup, enlevant la valeur de premier grade universitaire au baccalauréat. baccalauréat qui a depuis perdu sa valeur de diplôme national grâce à Jean-Michel Blanquer et sa réforme du bac, puisque le bac est désormais localisé à 40% en contrôle continu, on en avait parlé. Donc en fonction de là où t'as le bac, la valeur du diplôme n'est pas la même pour entrer sur le marché du travail ou à l'université. Tout ce petit monde ayant hyper bien fait son travail depuis plusieurs décennies à l'université, il est évident que l'une des dernières étapes de ce processus est, et ça fait longtemps qu'on le dit, c'est la hausse importante des frais d'inscription, comme c'est le cas dans d'autres pays européens où les frais d'inscription ont déjà augmenté depuis bien longtemps, où il faut payer 1 000 euros, 2 000 euros, 3 000 euros, 5 000 euros ou plus pour s'inscrire. Donc oui, Macron, c'est bien ce que tu as sous-entendu devant la conférence des présidents d'université le 13 janvier dernier, contrairement à ce que tu as dit aujourd'hui. Et il va falloir être très vigilant sur le prochain quinquennat, parce qu'entre Macron et Pécresse, c'est entre qui va dégainer le plus vite pour s'attaquer aux frais d'inscription. À quand le prochain blocage des universités ?
Et pour rester sur une note combative, on va parler de la reprise de la grève du nettoyage à l'université de la Sorbonne.
Oui, on vous en avait parlé, il et elle avaient fait grève en septembre dernier. Et donc, les agents d'entretien du campus de Jussieu de l'université de la Sorbonne remettent ça à peine 4 mois après cette première grève. En cause cette fois, principalement, le non-respect du protocole de fin de conflit par l'entreprise de sous-traitance qui les emploie, Arc-en-Ciel. En septembre, les employés se plaignaient d'une surcharge de travail provoquée par des sous-effectifs. Depuis le passage en sous-traitance de l'entretien du campus, en effet, 30 postes avaient disparu. Résultat donc, des cadences intenables. À l'époque, une employée avait dû se faire soigner suite à une exposition à une trop grande quantité de produits ménagers à un laps de temps trop court. Elle avait dû nettoyer les 170 toilettes du campus en une matinée. Donc, outre les dangers pour la santé, les employés ont dû faire de plus en plus d'heures supplémentaires. Et donc l'accord de fin de conflit prévoyait que ces heures qui n'avaient pas été payées le seraient, et avec une majoration comme ça se doit pour les heures supplémentaires. Ce n'est toujours pas le cas aujourd'hui, en tout cas pas pour toutes les heures supplémentaires effectuées, parce qu'elles sont difficiles à prouver, ce qui est bien pratique pour l'entreprise. Les heures supplémentaires effectuées aujourd'hui sont certes payées, mais elles ne sont toujours pas majorées. Autre point non respecté, la fin des travailleurs sans contrat. En mai 2021, par exemple, une femme avait travaillé 8 jours sans aucun contrat et elle n'avait même pas été payée. Donc le dossier est au prud'homme et n'a toujours pas été réglé. Mais surtout, les agents déclarent qu'il y a encore aujourd'hui des gens qui travaillent sans contrat. Et puis enfin, alors qu'Arc-en-Ciel s'était engagé à ne pas procéder à des sanctions suite à la première grève, elle semble s'en prendre à deux chefs d'équipe particulièrement mobilisés en septembre. L'un d'eux est déjà licencié, a priori pour avoir eu un deuxième emploi qui lui aurait fait peut-être dépasser le nombre d'heures cumulées de travail autorisé, mais sans qu'Arc-en-Ciel ne suive la procédure dans ces cas-là. Un deuxième était convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire mercredi dernier, apparemment pour lui annoncer son licenciement malgré un rassemblement organisé en son soutien. Aujourd'hui, les agents, bien que moins massivement qu'en septembre, pour rappel à l'époque, la grève concernait 100% des employés. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, plusieurs dizaines d'entre eux sont toujours en grève, car pour le moment, Arc-en-Ciel n'a répondu que par l'obligation pour tous les agents de porter sur eux, à partir de février, une pointeuse mobile. Autrement dit, un GPS qui permettra de calculer le temps de travail des agents, mais aussi de le calculer de façon précise pour chaque tâche, ce qui est plus qu'indécent, non seulement parce que cela remet en cause la parole des employés alors qu'il est évident qu'ils sont réellement en sous-effectif, mais aussi parce que ce genre de dispositif ne sert qu'à faire augmenter les cadences en demandant à tout le monde de s'aligner sur un temps supposément possible pour une tâche donnée, et ce, peu importe les conditions. Bref, on souhaite à toutes et tous les agents du campus de réussir à reprendre un mouvement de grève aussi impressionnant qu'en septembre et de ne pas se laisser intimider par un employeur qui, de toute évidence, essaie d'empêcher cette grève. Et puis, on rappelle que la direction de l'université, la Sorbonne, ne réagit pas au manquement évident au droit du travail de cette entreprise qu'elle a choisie comme sous-traitant.
Et avant de passer au local, une petite musique, c'est René Binamé avec son morceau phare « La vie c'est cool ».
La vie s'écoule, la vie s'enfuit, les jours défilent au pas de l'ennui. Parti des rouges, parti des gris, nos révolutions sont trahies. travail tue, le travail paie, le temps s'achète au supermarché, le temps payé ne revient plus, la jeunesse meurt de temps perdu, le temps payé ne revient plus, la jeunesse meurt. Les yeux faits pour l'amour d'aimer sont le reflet d'un monde d'objets, sans rêve et sans réalité. Aux images nous sommes condamnés, sans rêve et sans réalité. Aux images nous sommes condamnés. Les fusillés, les affamés viennent vers nous du fond du passé. Rien n'a changé, mais tout commence et va mûrir dans la violence. Rien n'a changé, mais tout commence et va mûrir dans la violence.
Et vous êtes toujours sur Radio Canu 102.2, c'est le Canu Info du lundi 24 janvier, il est 19h37 et on vient d'écouter René Binam, La vie c'est cool.
Binamé.
René Binamé.
Allez, et on passe au local.
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 Avec le déplacement du CRA à Lyon, de Saint-Exupéry.
Ouais, c'est l'occasion de revenir sur... une action qui a eu lieu lundi dernier contre l'ouverture du nouveau centre de rétention administratif à Lyon. C'était donc lundi dernier, le 17 janvier, c'était l'ouverture officielle du nouveau centre de rétention qui est donc en travaux depuis plusieurs années, qui se situe à côté de l'aéroport Saint-Exupéry, de l'autre côté de l'ancien CRA. Et lundi dernier a eu lieu le transfert donc d'une partie des prisonniers de l'ancien CRA vers le nouveau. Et pour ne pas laisser l'État organiser cette politique d'enfermement, ce doublement des places de rétention dans le silence, eh bien, une trentaine de personnes se sont retrouvées pour perturber le transfert et surtout manifester leur soutien aux prisonniers transférés. Depuis des mois, donc, l'ouverture du nouveau CRA, donc les CRA, c'est des prisons pour sans-papiers, l'ouverture se fait dans le silence médiatique le plus total. alors qu'elle constitue un pas de plus en avant dans la répression à l'égard des personnes considérées comme sans papiers. Un pas de plus en avant aussi, de manière générale, dans la politique migratoire raciste de l'État et de l'Europe. En 2019, c'est bien le gouvernement Macron qui a annoncé la construction de 3 nouveaux CRA à Lyon, à Bordeaux et à Olivet. Olivet, c'est près d'Orléans. Ce sont les premières constructions de CRA depuis près de 10 ans, mais ces dernières années, des centaines de nouvelles places ont été créées et le taux d'occupation des CRA ont continué à augmenter sous le fait des agrandissements successifs, des extensions et des rénovations, plus les nouveaux projets donc dont on vient de parler. L'objectif de l'État était clair, il s'agit d'augmenter toujours plus les capacités d'enfermement, quitte à y mettre des thunes, des millions d'euros pour criminaliser, torturer, dissuader, expulser les personnes qui n'ont pas les bons papiers selon l'État français. Les CRA, mais aussi les CPR, l'équivalent italien, les centres fermés, bref, tous les équivalents, sont ainsi l'un des maillons de la chaîne répressive contre les sans-papiers. Ils sont la continuité des opérations de rafle dans les lieux de transit, ils sont la continuité des contrôles aux faciès dans les quartiers populaires, ils sont l'envers de l'organisation du non-accueil, ainsi que le prolongement direct des violences policières contre les exilés, que ce soit dans les camps de Calais ou ailleurs. La machine carcérale, elle complète l'arsenal des politiques de refoulement qui sont, elles, toujours plus sophistiquées, toujours plus criminelles, surtout par la militarisation excessive aux frontières et en dehors des frontières. Le contexte électoral actuel, bien pourri, saturé par les mots d'ordre des extrêmes droites, renforce et légitime, toujours plus que d'habitude, les discours racistes et sécuritaires de l'État. Pour n'en citer que quelques exemples, les surenchères islamophobes, le mythe de l'ennemi de l'intérieur, la banalisation des théories du remplacement qui sont diffusées à tour de bras sur les plateaux des médias mainstream, tout ça, ça offre évidemment un terrain favorable au durcissement des politiques migratoires, et ça encourage notre cher gouvernement à multiplier mesures racistes et persécutions. Les travaux donc du nouveau centre de rétention à Lyon ont commencé au printemps 2020. Il est donc situé sur une parcelle de l'aéroport Saint-Exupéry, très proche de celui du CRA qui existe déjà. Et sa capacité totale est de 140 places. Il faut bien souligner que ce n'est pas seulement une affaire de migration, c'est aussi un business, puisque concrètement, la construction de ce nouveau CRA a fait beaucoup de thunes à Vinci et à Eiffage. Le CRA a coûté plus de 20 millions d'euros à l'État, qui va dans les poches du BTP Eiffage. Actuellement, donc, en plus des violences quotidiennes inhérentes à l'enfermement, eh bien, s'ajoutent la crainte et l'insécurité qui sont liées à la situation et au contexte sanitaire, puisque il y a dans les CRA des effets de promiscuité, il n'y a pas de mesures barrières, l'accès aux soins est très 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 restreint. Et donc, le CRA de Lyon devient un véritable cluster. On a appris récemment qu'à Lyon, l'État a décidé de faire de l'ancien CRA, tout simplement un CRA Covid, où des personnes testées positives de toute la France pourront être transférées, alors que les personnes qui sont allées dans le nouveau CRA sont des personnes qui ont été testées négatives. Donc une forme de séparation dans l'accès aux soins, c'est donc scandaleux. Bref, à bas les CRA, à bas les frontières et soutien à toutes les prisonniers.
Et puis on continue dans le racisme avec le nouveau délire de la presse locale à Lyon.
Ouais, le racisme ou l'anti-gauchisme primaire, puisque donc Lyon Mag, qui, alors vous, peut-être vous connaissez vous, cette bien belle revue, donc qui a aussi un site internet, c'est un mensuel local, adepte des faits divers, critique des grévistes, des luttes sociales et qui adore raconter n'importe quoi sur ce qu'ils appellent l'ultra-gauche. Bref, disons, une presse en tout cas très réactionnaire, pour ne pas dire carrément facho. Alors, ce beau site d'information a relayé très récemment un communiqué de presse co-signé par les militants centristes et républicains élus à la métropole de Lyon, qui réclame purement et simplement la dissolution du groupe La Gale. Gale qui signifie groupe antifasciste Lyon et environ, qui, figurez-vous, se sont permis de relayer un ultimatum lancé à Bayer Monsanto de quitter Lyon sous 3 mois. Ultimatum lancé non pas par la Gale, mais par le mouvement Les Soulèvements de la Terre. Alors, quelques explications pour bien comprendre. La GAL, c'est un des deux groupes antifascistes lyonnais qui est depuis plusieurs années la cible d'une répression politique, policière et judiciaire totalement disproportionnée. On vous en a déjà beaucoup parlé. Laurent Wauquiez, le président de la région, avait voulu mettre des bâtons dans les roues au Lyon Antifa Fest en supprimant des subventions au CCO qui organisait les années précédentes le Lyon Antifa Fest, festival qui s'est d'ailleurs déplacé à Grande Zéro à Vaux-en-Velin. Récemment, quatre de proches de la GAL ont été incarcérés pour une altercation avec Civitas. On vous en a aussi beaucoup parlé. Certains ont fait jusqu'à 6 semaines de tôle pour finir avec une amende de 300 euros. Bref. D'ailleurs, bel effort journalistique fait par les journalistes de Lyon Mag, puisque pour illustrer leur bien bel article, ils ont mis une photo de la Jeune Garde, l'autre groupe antifasciste lyonnais. Bon, bref, la GAL en tout cas relaie sur sa page Facebook un appel des soulèvements de la terre. Alors qu'est-ce que sont les soulèvements de la terre? C'est un mouvement national et je vais vous citer un résumé de ce qu'eux-mêmes écrivent sur leur propre site internet. À mesure que s'accélère la dégradation des conditions de vie sur Terre, nous sommes de plus en plus nombreux et nombreuses à se sentir tenaillés par la confusion, la colère et l'absence d'horizon. Qu'attendre d'une énième COP ou d'un catalogue printanier de promesses électorales? Seul un basculement radical, un soulèvement, pourrait permettre d'enrayer le réchauffement climatique et la sixième extinction massive des espèces déjà en cours. Au fond, nous le savons, il ne nous reste aujourd'hui plus d'autre voie que de mettre toutes nos forces dans la bataille pour enrayer le désastre en cours et abattre le système économique dévorant qui l'engendre. Alors, un exemple parmi d'autres des actions déjà passées et appelées par les soulèvements de la Terre, en septembre 2021, dans le Poitou-Charentes, il y a une action contre les projets de méga-bassines. Il y en a 93 en projet pour être exact. Ces méga-bassines, ce sont des infrastructures de stockage hydraulique d'une surface de 8 hectares qui doivent permettre à l'agro-industrie de concilier raréfaction de la ressource en eau et maintien de l'irrigation intensive. Donc, le 29 septembre, il y a une action contre les chantiers de ces méga-bassines. Voilà, donc ce mouvement appelle à une mobilisation le 5 mars à Lyon contre le siège de Monsanto, siège qui est situé, pour ne pas le dire, dans le 9e arrondissement de Lyon, à côté de Gorge de Loup, rue Sergent, Michel Berthet, voilà. Monsanto, alors est-ce qu'il y a besoin vraiment de citer ce qu'est Monsanto? Monsanto, c'est le napalm, l'agent orange, les OGM, le Roundup Ready, le PCB, les semences Terminator, les néonicotinoïdes, des fichages d'opposants, la falsification scientifique, de procès aux agriculteurs, un lobbying hyper agressif et de très très nombreux conflits d'intérêts. Donc ces soulèvements de la terre appellent à une manifestation finalement le 5 mars contre Monsanto, manifestation et appel relayé par la GAL. Alors voilà, les Républicains qui ont décidément envie de se faire la GAL avec leurs petits collègues de l'UDI demandent leur dissolution et Lyon Mag relaye. La boucle est bouclée. Eh bien nous demandons officiellement aujourd'hui la dissolution des Républicains, de l'UDI, de la République En Marche, de la Métropole de Lyon et la fermeture immédiate du site et du journal Lyon Mag. Et on apporte tout notre soutien à la GAL bien sûr, mais également au soulèvement de la terre. Et nous relayons et nous vous invitons tous les auditeurs et auditrices à aller sur le site des soulèvements de la terre pour savoir très exactement où est Monsanto et ce qui va se passer le 5 mars. Réservez votre journée car le 5 mars, a priori, on assiège Monsanto.
Et voilà, c'est sur ça qu'on va terminer le Canu Info aujourd'hui.
Oh, mais on va quand même parler d'un petit agenda avant le 5 mars.
Bah oui. Faisons un agenda alors.
Parce qu'il y a quand même une manifestation interprofessionnelle et surtout une grève interprofessionnelle appelée par l'intersyndicale jeudi, donc jeudi 27 janvier 2022.
C'est national.
Pour les salaires, les retraites et l'augmentation des minima sociaux. Appel à la grève nationale avec à Lyon une manifestation à 11h30 qui partira de la gare des Brotteaux et qui ira jusqu'à la préfecture. Et cette semaine toujours, on aura aussi un rassemblement en soutien à Olivia Zemmour qui a son procès en appel à Lyon. C'est dans le cadre d'un procès qui lui a été intenté par Teva. Et c'est pour défendre le droit au boycott d'Israël. Et donc le rassemblement aura lieu à 12h30 devant la cour d'appel de Lyon, le palais de justice des 24 colonnes au 1 rue du palais de justice.
Que vous n'êtes pas obligé d'assiéger, là, ce coup-ci.
Eh bien merci de nous avoir écoutés et puis à la semaine prochaine.
Je prie le ciel du 2 janvier au premier jour de l'an, que ce monde comprenne et entreprenne le renouvellement. La politique nous braque à visage découvert, les affaires étouffées au nom du père, combien on en souffert. Souviens-toi qu'on en parlait entre nous frères, on va rendre fiers les nôtres, on n'emporte rien sous terre. Mon discours fera éruption, comme une éruption de l'Etna. Toi tu sépages des envies fondées de condamner l'État, la liberté d'expression à la peau trouée par le métal. Les faussaires se plantent derrière le souci du détail. Hey. Mais on est là, on analyse, on observe, mec. Ma fine équipe n'est pas naïve. Loi du monde des apparences, de Stéphanie Germain otage. J'ai pris la défense des miens, je m'improvise sauf histoire avocat. Pour plaider ma cause, c'est la leur. Car synchro, l'exhaleur, mon rap d'ailleurs n'est pas né d'hier. L'esprit critique, Billy Bob compose du centre et nos vécus jusqu'à l'heure. Des sincères condoléances en attendant. Je passe mon temps à semer ce que je récolte. Entre la vieille et la nouvelle école, je ne prône pas la guerre quand je viens parler de la révolte au nom des nôtres. J'ai d'autres choses à faire que d'écraser les autres. Je pratique l'art de la raison. Je prends du recul pour aller voir au-delà de l'horizon. L'exalourd, j'élève ma voix, élève le voile des mots. Tant que je vivrai, personne prouvera que la révolte est morte. Je passe mon temps à semer ce que je récolte. Entre la vieille et la nouvelle école, je ne prône pas la guerre quand je viens parler de la révolte au nom des nôtres. J'ai d'autres choses à faire que d'écraser les autres. Je pratique l'art de la raison. Je prends du recul pour aller voir au-delà de l'horizon. L'exalour, j'élève ma voix, élève le voile des mots. Tant que je vivrai, personne prouvera que la révolte est morte.
Me battre ou bien sortir du ring. On dit que les problèmes arrivent dès qu'on rencontre la mer. Tout le monde veut le gâteau cousin dès qu'on a goûté aux miettes. À part se motiver soi-même à croire que ça nous aide. Je crois pas à la politique cousin, j'ai peur que ça nous gêne. Les salles nous parlent d'hygiène et ça ne date pas d'hier. On en revient au même et j'en suis à mon cinquième. Yo, j'ai plein d'amour qui se mélange à plein de nerfs. La voix des opprimés qui se balade dans le plein air. On arrive en tête en taf depuis longtemps. On finira sur le stade et même si vous regardez la balle, allez regardez là-bas, j'arrive. Faut monter la barre. Au lieu d'aller trop vite, moi j'ai préféré prendre le car. Calmez-vous les gars, beaucoup de tentations. Quand le pétard est assez, c'est qu'il faut faire attention. C'est pas la folie, pareil que les enfants pleurent. C'est pas de l'ironie, on dit que les enfants pleurent. C'est pas la folie, pareil que les enfants pleurent. C'est pas de l'ironie, on dit que les enfants pleurent. C'est pas la folie, pareil que les enfants pleurent. C'est pas de l'ironie, on dit que les enfants pleurent. C'est pas la folie, pareil que les enfants pleurent. Pareil que les enfants pleurent. De toute manière c'est le bordel, tant de vider la corbeille. Vague de problèmes, une fontaine à te faire tomber une bouteille. L'avenir a rien dans le coude, disons qu'on restera soudés. Je m'en fous qu'a rien à manger tant que Médior a pris de goûter. Prends le départ au terminus, son coup de frein à l'arrivée. La rue n'est pas ma prof vu qu'elle m'a déscolarisé. Déchire le coloriage et fait péter les décibels. Chez moi, y'a que Saïd qui a réussi avec la haine. Frapper avec un verbe, éloigné de vos parasites. Ça fait du bien la musique, donc je reprends une pharmacie. Dans ma route j'en ai croisé, qu'on ne reverra plus jamais. Je fais du rap en pire. Pareil qu'on sera mieux soigné. On a commencé d'en bas. On a commencé d'en bas. Passionné depuis un bail. Passionné depuis un bail. Oui, on a démarré d'en bas. On a démarré d'en bas. Avec la rage qui m'accompagne. C'est pas la folie, pareil que les enfants pleurent. C'est pas de l'ironie, on dit que les enfants pleurent. C'est pas la folie, pareil que les enfants meurent. C'est pas de l'ironie, on dit que les enfants pleurent. C'est pas la folie, pareil que les enfants meurent. C'est pas de l'ironie, on dit que les enfants pleurent. C'est pas la folie, pareil que les enfants meurent. Pareil que les enfants pleurent. Oui, on a démarré d'en bas. Passionné depuis un bail.
Sprinter.
On a démarré d'en bas. Passionné depuis un bail. On a démarré d'en bas.
Mono.
Passionné depuis un bail.
Rolex.
On a démarré d'en bas.
Un.
Passionné depuis un bail.
prête pas à la folie, paraît que les enfants meurent. C'est pas de l'ironie, on dit que les enfants pleurent. C'est pas à la folie, paraît que les enfants meurent. C'est pas de l'ironie, on dit que les enfants pleurent. C'est pas à la folie, paraît que les enfants meurent. C'est pas de l'ironie, on dit que les enfants pleurent. C'est pas à la folie, paraît que les enfants meurent.
Une musique pas faite pour 100 personnes mais pour des millions. Une musique pas faite. Une musique pas faite. Une musique pas faite pour 100 personnes mais pour des millions.
Vous êtes toujours sur Radio Canu et on vient de s'enchaîner Jasmine Toussafi pour la tune Monotone en combinaison avec True Hippie. Ensuite, on a enchaîné avec L'Exhaleur et la tune La Révolte des mots, produit chez Face B. Et on a fini par Demi-Portion et la tune Les Hommes. Radio Canu, la plus sauvage des radios.